Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous en sommes sur la foi. Nous allons continuer. Et je vous rappelle que notre texte de référence est Hébreu, chapitre 11, verset 6. C'est un texte fondamental que vous devez connaître et vous devez le comprendre. Hébreu, chapitre 11, verset 6, nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, ou qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent dans cette version. » Nous sommes en train d'étudier depuis bien des semaines le sujet de la foi. Parce que la foi, c'est un élément central dans notre vie spirituelle. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, eh bien la Bible dit clairement, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas nos belles prières, nos belles intonations, nos pleurs, nos jeûnes, s'il n'y a pas de foi. Quand il n'y a pas de foi, tout le reste n'est que religion. La foi, c'est ce qui permet de te connecter à la puissance de Dieu. C'est ce qui va te permettre de sortir des pires choses qui a pu se passer dans ta vie. Mais aussi, c'est ce qui te permettra de construire les plus grandes visions et les rêves que Dieu t'a donné. Donc la foi, c'est extraordinaire parce que ça va être un turbo propulseur qui va te propulser à une vitesse rapide. Qui va t'amener dans des choses inimaginables. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître les principes. Rappelez-vous que Dieu fonctionne avec des principes et des valeurs. Les principes, ce sont les lois du royaume de Dieu que nous devons étudier. Et les principes, ce sont les valeurs de caractère divine qui doivent être infusées en
nous.
Donc la Bible nous dit ici que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc si tu veux plaire à Dieu, il te faut de la foi. Et nous sommes en train d'étudier les différents types de foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et je vous rappelle que là, le verbe « croire », c'est dans le sens biblique du terme. C'est-à-dire que tu crois vraiment que Dieu est personnel, ou peut devenir personnel dans ta vie, qu'il est manifeste, qu'il se montre. Et souvent, c'est ce genre de foi, entre guillemets, naturelle, qui nous a quand même permis de venir à Jésus. Parce qu'un jour, on était inconverti, quelqu'un a prié pour nous. Et on a été guéri, on a dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as prié pour moi et j'ai vraiment été guéri. Ou j'ai vu ce problème être résolu. Avant de venir à Jésus, avant de naître de nouveau, tu as dû avoir des preuves tangibles devant tes yeux que Dieu existait. Il a été capable de te prouver qu'il pouvait devenir personnel. Tu avais besoin de preuves tangibles. Donc cette partie de verset, ce n'est pas simplement dire « Oui, je crois qu'il existe un Dieu. » Non, non, c'est voir vraiment Dieu quelque part, qui agit quelque part pour toi. Et souvent, ce genre de foi ne nous mènera pas très loin.
Elle
nous montrera que Dieu peut être personnel.
Ça
nous a donné des preuves de l'existence et que Dieu pouvait être personnel et agir, se montrer réellement dans nos vies. Se manifester. Et après, ça nous a amené au salut.
Puis,
nous avons commencé à marcher avec le Seigneur. Et là encore, souvent, ce type de foi, la foi des sens, a été utilisée. Pendant des moments de découragement, et puis Dieu nous a guéris, quelqu'un a prié pour nous, d'un seul coup on s'est retrouvé dans une bonne situation, Dieu avait agi, mais d'un autre côté, ça ne dépendait pas de notre foi. C'était les expériences que nous avons faites très souvent avec la foi des autres. Au début de notre vie chrétienne. Et Dieu était là pour nous dire, voilà, je t'aime, je suis là. Apprends à marcher avec moi. Un jour, tu étais découragé, tu as prié.
Et
quelqu'un a reçu une parole pour toi.
T'as
beaucoup encouragé.
Tout
ça, c'est bien.
Mais
ça, c'est souvent cette foi des sens.
Dieu,
est-ce que tu es bien encore là? On en a besoin au début. Mais c'est quand on est bébé spirituel. Après, on a besoin de la foi biblique.
Et
c'est ce que nous sommes en train d'étudier particulièrement ici. La foi biblique vient de la parole. À partir du moment où Dieu a parlé, il y a un terrain pour avoir la foi. Dieu a parlé dans sa parole, nous l'avons vu. Mais Dieu aussi nous fait des promesses personnelles de destinée. Et ça, souvent, nous devons les chercher dans la prière. Tu es là, tu cherches Dieu, et d'un seul coup le Seigneur va te parler,
ou
il va mettre des choses de ta destinée divine. Tu vas rêver constamment à certaines choses et tu ne comprends pas, mais si, c'est Dieu qui est en train de te parler. Ça revient dans ton esprit. Tu es en train de louer et adorer Dieu et ça revient, et tu te vois dans un état prophétique final. Mais cet état prophétique final ne s'est pas encore produit parce que c'est la finalité de Dieu. Je vous rappelle que quand Dieu nous parle, il nous dit, voilà ce que tu dois être. Mais tu n'es pas encore. Et il va y avoir un immense fossé entre l'état où tu es actuel et l'état prophétique dans lequel Dieu te voit. Et pour remplir ce fossé, il va falloir que tu apprennes à marcher dans la foi. Donc il va falloir que tu appuies ta foi sur la parole, sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce qu'il y aura du découragement sur le chemin. Il y aura des choses que Dieu t'a dites et tu as commencé à obéir et tu vois tous les obstacles possibles et imaginables. Tu dis, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Oui, Dieu t'a parlé. Mais tu as besoin d'accrocher ta foi. Donc la foi vient de la parole. Cette parole doit être en nous et je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. J'ai suffisamment enseigné sur ce domaine. Maintenant, nous sommes en train d'étudier les obstacles à notre foi.
1 Timothée 6:12.
Nous dit la chose suivante, si on peut l'afficher, merci. 1 Timothée 6:12. Nous allons le lire ensemble. Paul dit, combat le bon combat de la foi.
Aravuga Paulo ngo wamugwane intambara nziza yo kwizera.
Combat le bon combat de la foi.
Wamugwane intambara nziza yo kwizera.
Souvent les chrétiens ne combattent pas le bon combat.
Kenshi abakristo ntibagwane intambara nziza.
Ils se battent contre le diable.
Bagwana na Satani.
Ils se battent contre des malédictions.
Bakagwana n'imivumo.
Ils se battent contre tout un de des gens.
Bakagwana n'abantu.
Ils se battent contre toutes sortes de trucs. La Bible nous dit de combattre le bon combat. Et le seul combat que tu as à mener, que tu as à apprendre à mener, c'est le combat de la foi. Le diable, tu peux le repousser avec une foi ferme. Tu n'as pas besoin de te battre contre lui. Tu as simplement besoin, comme nous allons le voir un peu plus loin, de faire appliquer des lois spirituelles. Donc c'est à toi d'apprendre à faire ces choses.
Mais
il y a le bon combat, il y a le mauvais combat. Et s'il y a le combat de la foi, ça veut dire qu'il y a des obstacles. Nous avons étudié un certain nombre de ces obstacles. On va revenir brièvement dessus et on va continuer après. D'abord, le premier obstacle, c'est de ne pas agir sur la parole. Quelqu'un qui va être baptisé du Saint-Esprit, qui refuse de libérer sa langue, de donner sa langue au Seigneur. Quelqu'un qui veut être guéri et qui confesse la maladie constamment. Ou qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu en déclarant qu'il est guéri et manifester sa guérison. Quelqu'un qui veut voir Dieu le bénir financièrement parce qu'il a des difficultés et qui ne veut pas obéir dans la dîme. Donc nous avons vu que ne pas obéir à la parole, il y a des choses simples de la parole de Dieu qui nous parlent. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle personnellement. Donc Dieu dit certaines choses dans sa parole. Soit tu les pratiques, tu obéis par la foi, et tu verras le résultat, ou soit tu refuses. Mais si tu refuses, tu peux prier tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que bon nombre de chrétiens tournent en rond en faisant des prières et des prières et des prières et des prières. Et la prière a son rôle. Mais la prière sans agir sur la parole ne sert à rien. Parce que Dieu nous dit clairement que si on veut manger les meilleures productions du pays, il s'attend à notre obéissance. Quand tu ne veux pas agir sur la parole, tu ne verras pas grand-chose se produire. Ensuite, on a vu qu'il fallait laisser notre passé derrière nous. Si tu vis dans ton passé et que tu as vécu des mauvaises choses dans ton passé, ça va être un ennemi terrible contre les visions divines. Tellement de gens restent accrochés à leur passé. Nous avons vu que le passé, nous ne pouvons pas le refaire. Il faut que tu regardes toujours devant. Je te rappelle que Dieu n'a pas de marche arrière. Dieu n'a que des vitesses pour marcher en avant. Dieu n'est pas un Dieu qui marche en arrière. Il n'y a pas de marche arrière avec Dieu. Donc ne regarde pas derrière. Si ça s'est passé derrière, ok, des bonnes choses et mauvaises choses laissent. Parce que c'est un terrible ennemi aux visions divines. Et tu as besoin de rêver si tu veux être dans la foi. Tu as besoin de voir les choses. Tu as besoin de voir l'état d'achèvement des choses. Sinon, tu seras toujours découragé, tu vas t'asseoir. Tu vas rester sur la touche. Tu ne seras jamais dans le jeu, entre guillemets. C'est un terrible ennemi de la foi. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes de nouvelles créatures. Et rappelez-vous, nous sommes dans notre esprit. Il faut que tu apprennes à laisser le passé derrière toi dans ton âme. Ensuite, nous avons vu l'incrédulité. L'incrédulité, nous avons vu que ça vient de deux sources. Manque de connaissances. Parce que là où il y a de l'incrédulité, je vous le rappelle, il ne peut pas y avoir d'action divine parce qu'il n'y aura pas de foi. Le même Jésus qui parcourait tout Israël, nous l'avons vu quand il est venu là où il a grandi, dans la ville où il a grandi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas cru en lui. Il a pu faire là que quelques petites choses. Peu de miracles, peu de guérisons. Pourquoi ? Parce qu'il s'étonnait de quoi ? Leur incrédulité. L'incrédulité va bloquer la puissance de Dieu. Donc première chose d'incrédulité, c'est bien sûr ne pas connaître la parole, ne pas connaître ce que Dieu te dit. C'est pour ça que tu dois absolument faire attention à passer du temps à étudier la parole, à t'imprégner de la parole, pour marcher dans la parole. La deuxième source pour l'incrédulité, c'est bien sûr la rébellion à la parole de Dieu. Oui, oui, je sais, mais oui, je sais ce que Dieu dit dans sa parole, mais. Il y a toujours des mais. Et en fait, c'est des gens qui remettent en question la parole.
Et qui sont
quelque part rebelles.
C'était
le cas du peuple d'Israël quand ils ont exploré le pays promis.
Les 10 espions
étaient rebelles. Ensuite, nous avons vu d'autres obstacles. Nous avons vu ce que les autres disent de nous. Faites attention à ne pas laisser, à ne pas avoir peur. Quand vous marchez dans la foi,
hein,
il y a des gens qui vont essayer de vous freiner. Ils vont dire, t'es sûr de ce que tu fais? Bien sûr, sois sûr d'être dans la foi dans ce cas-là. Parce que sinon tu feras comme Pierre.
Tu
auras le droit à un bon bain froid. Quand il s'est enfoncé dans le lac. Au départ, ils étaient tous en train d'applaudir dans le bateau quand Pierre est sorti et a marché sur l'eau. Et après, quand ils l'ont vu s'enfoncer, faire gloup gloup gloup, Seigneur sauve-moi.
Et
bien certainement qu'ils ont dû rigoler, mais discrètement. Mais sachez une chose, il y aura des moments où il y a des gens qui ne croiront pas dans ce que vous faites. Et ça, c'est normal. Donc, vous ne devez pas vous en inquiéter. Vous savez, quand quelqu'un a la foi, c'est incompréhensible pour les gens qui sont autour de lui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Quand tu es dans la foi, les autres ne comprennent pas ce que tu dis. Par contre, si tu es trop sensible à ce que les autres disent sur toi, les pressions, des fois les persécutions, eh bien tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Ça va être un terrible obstacle et tu vas faire marche arrière. Je te rappelle, Dieu n'a pas de marche arrière. Avec Dieu, c'est toujours devant. Ensuite, nous avons vu la dernière fois l'inquiétude. Et nous avons vu que l'inquiétude est quelque chose de terrible à propos de notre foi. Ça essaie de bouffer notre foi. Et je vous ai fait tout un enseignement sur l'inquiétude la dernière fois. En vous montrant que Dieu vous a donné une imagination dans votre âme. Et malheureusement, souvent, que ce soit la pensée ou l'imagination ou même les sentiments, à chaque fois les chrétiens pensent le côté négatif de ça. Et Dieu nous a donné cela pour que nous apprenions à sanctifier ces choses. Un bâtiment, un très beau bâtiment, le plus beau bâtiment que vous pouvez admirer quelque part, n'est pas venu comme ça. Il a d'abord été imaginé dans quelqu'un. Et ensuite, cette personne, c'est l'architecte, a amené les choses à la réalité. Mais c'est d'abord quelqu'un qui a pensé ces choses. Utilisez votre imagination pour être créatif pour Dieu. Utilisez les capacités que Dieu vous a données dans votre âme, non pas de la mauvaise façon, mais de la bonne façon. Et ça, souvent, ce n'est pas enseigné aux chrétiens. On leur dit, n'ayez pas de mauvaises pensées, faites attention sur quoi vous méditez, faites attention aux images que vous avez dans la tête. Tout ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a l'autre aspect de notre éducation spirituelle. Ne vous servez pas de ce que vous avez reçu comme capacité pour faire des choses mauvaises. Mais ça ne veut pas dire que ça doit rester stérile. Bien au contraire. Vous devez faire travailler ces choses pour la gloire du Seigneur. Et l'imagination est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné. Ça va t'aider à faire une chose. À garder ton esprit, la foi qu'il y a dans ton esprit et ta tête en parfait accord. Et donc, à ce moment-là, tu avanceras toujours parce que tu vas voir les choses à l'avance. Et en fait, quels que soient les obstacles, tu ne regarderas pas les obstacles dans ton imagination, mais tu seras tout le temps en train de regarder le résultat fini. Et c'est une puissance que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous a donné et les païens ont récupéré ça. Certains d'entre vous, vous avez entendu parler de livres sur la pensée positive. Et en fait, ce sont des choses que des païens ont récupérées. Alors que c'est Dieu qui nous les a données. Et les païens ont récupéré ces principes divins en les utilisant pour eux-mêmes. Et vous pouvez trouver beaucoup de séminaires maintenant dans le monde entier où les gens vont parler de ces choses-là. Mais simplement pour devenir riche pour eux-mêmes, pour devenir de grands bonhommes pour eux-mêmes, pour avoir des grands noms pour eux-mêmes, pour leur propre gloire. Et des gens ont récupéré des principes divins et ils les utilisent parce que ce sont des lois divines, mais pour se construire des choses qui ont été perverties. Et souvent les chrétiens restent l'imagination.
Pensez
aux rêves divins. Pensez à de grandes choses que Dieu veut vous donner. Passez du temps à y méditer. Pensez-y chaque jour. Que ça soit tellement en vous que rien ne pourra l'arracher. Ça sera quelque chose d'énorme pour aider votre foi. Le contraire va anéantir votre foi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de différents sujets encore qui sont des obstacles. Alors nous allons voir que aussi il faut comprendre que la foi est une école.
Donc,
un des obstacles que nous rencontrons souvent, c'est le fait que les gens n'arrivent pas à comprendre que dans la foi, il y a une progression. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Vous n'allez pas avoir une grande foi du jour au lendemain. C'est quelque chose, et je vais vous le montrer dans l'Écriture, sur lequel il va falloir que vous travailliez régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver comme ça un jour. Si vous voulez les réaliser de grandes choses, il va falloir commencer par la base. Ne pas comprendre que la foi est une école est une grave erreur que beaucoup de chrétiens font. Ça leur crée souvent un obstacle. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, ils vont être confrontés à une grande montagne. Ils vont commencer à lire un livre d'un homme de Dieu sur la foi. Ils vont vouloir appliquer les choses. Et boum, ça ne va pas marcher. Et ça va être la grande déception. Et les gens sont très déçus dans ces cas-là. Et ils écrivent partout, ils appellent leur pasteur, ils appellent leurs amis. J'ai essayé. C'est une catastrophe. Pourtant, j'ai lu tel livre de tel auteur. J'ai prié les mêmes choses. J'ai fait tous mes efforts. Et ça s'est mal terminé. Et c'est normal. Parce que l'auteur a écrit ces choses. Une fois qu'il est déjà grand dans la foi. Et souvent, on l'oublie. On va oublier que lui, il a mis 10, 15 ans, 20 ans pour arriver dans ce domaine-là. Et qu'aujourd'hui, il est capable de croire des grandes choses. Mais peut-être que si tu l'avais vu tout au début, il n'aurait pas été meilleur que toi dans la foi. Et c'est normal. Regardez ce que Jésus dit à propos de la foi. On va regarder ensemble deux textes à propos de la foi et à propos d'une petite foi et d'une grande foi. On va regarder dans Matthieu chapitre 8. Il y a deux textes qui sont dans le même chapitre. Et c'est le même Jésus qui va nous parler. Dans Matthieu 8, verset 23 jusqu'au verset 27, il est dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Verset 24, s'il vous plaît. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots et lui, il dormait. Verset suivant. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Suivant. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Regardez bien cette expression, gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Verset 27, s'il vous plaît. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? On peut juste lire le verset 26, s'il vous plaît, en Kirundi.
Ngo arababaza ati niki kibateye ubwoba mwabafise ukwizera gukemwe bunaravyuka azibizingunza n'ikiyaga abagahwekere gose.
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Littéralement dans le grec c'est gens qui avaient une toute petite foi.
Ngo niki kibateye ubwoba mwabafise ukwizera gukemwe mwana majambo mwebwe mfise ukwizera ngo guto cyane.
Donc là il est parlé de personnes qui ont une petite foi.
Aha baravuze rero abantu bafise ukwizera guto.
Maintenant, regardons ensemble juste un peu plus haut. On va regarder au verset 5, toujours au chapitre 8. Et nous allons lire ensemble, Matthieu 8, 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, à mon serviteur, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi... » grande foi. Tout le monde dit grande foi.
Grande foi.
Vous avez vu tout à l'heure, il était dit gens de peu de foi. Donc, il est dit dans un texte gens de peu de foi. Et il est aussi parlé, juste un peu plus haut, de quelqu'un qui a une grande foi. Donc, vous êtes d'accord que ça prouve que la foi est quoi? Elle est mesurable. La foi est mesurable. Dans une situation, tu peux avoir une petite foi ou tu peux avoir une grande foi. Et le résultat va être dépendant de la mesure de foi que tu as dans la situation. Et ça, il faut que tu le comprennes. Qui dit petite foi et grande foi dit qu'il y a aussi une foi moyenne.
Bon,
ça veut simplement dire qu'il peut et il doit y avoir une croissance dans notre foi. Et ça, c'est important à comprendre. Beaucoup de chrétiens, quand la tragédie les surprend, un gros problème financier, une maladie, une tragédie quelconque familiale, toutes sortes de choses qui se produisent, ils sont là et ils font comme les disciples. Seigneur, au secours! Nous sommes en train de périr. Qu'est-ce que tu fais, toi, Seigneur? Je prie tous les jours, il n'y a rien qui se passe. J'ai comme ça quelqu'un qui m'envoie un mail, enfin des mails régulièrement. Et c'est une personne qui vraiment a beaucoup de problèmes. Et
ce
n'est pas la seule personne, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Mais c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'envoyer des mails de au secours, je prie, je fais tout ce que je dois faire, mais au secours. Et c'est sûr qu'il y a des situations qui peuvent nous impressionner au départ. La Bible nous parle des disciples qui vont avoir peur dans le bateau. Une tempête qui se lève. Une tempête, c'est tout simplement, c'est aussi une image pour nous. Là, c'est une tempête physique sur le lac. Mais une tempête, ça veut dire des circonstances qui, d'un seul coup, tournent mal. Et les disciples avaient Jésus dans leur barque. Ils étaient dans la volonté du Seigneur. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous êtes dans la volonté du Seigneur que vous n'aurez pas exercé votre foi, bien au contraire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oh, si c'est Dieu qui nous a dit ça, tout va bien aller.
On
a un petit chant là-dessus. Hein? Mais je vais vous dire une chose. Ce chant est bien gentil, mais s'il n'y a pas de foi, ça ne se passera pas.
Amen.
Ne nous faisons pas d'illusions, frères et sœurs.
Ce n'est
pas en chantant des jolies chansons que les choses changent. C'est très bien de chanter des jolies chansons, mais s'il
n'y
a pas de foi, il n'y aura rien qui va se passer.
Que
quelqu'un dise Amen.
Amen.
Soyons bien clairs. Parce que c'est la foi qui permet la puissance de Dieu
de
circuler dans nos situations.
Donc
quand tu chantes ce genre de chant, qui est la foi dans ton cœur? Là par contre ça va être de la dynamite. Mais simplement chanter des chants de droite et de gauche qui peuvent être même 100% bibliques ne changera pas tes situations si tu n'apprends pas à marcher dans la foi. La foi est une école. Tu peux avoir une petite foi, tu peux avoir une grande foi. Il y a certains domaines, vous savez, on est tous un peu pareil. Il y a certains domaines, vous allez découvrir que vous allez bien grandir dans la foi. Dans d'autres domaines, vous allez avoir plus de mal. Et quand on observe les gens, c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens, ils vont vous dire, moi vraiment, pour les finances, j'ai une foi très forte. Oui, mais le moindre rhume, la moindre grippe, ils sont par terre pendant 10 jours. Oui, tout dépend. Et là, ça veut dire que tu creuses ta foi, parce que ça veut dire que tu as une petite foi dans le domaine de la guérison. Et puis les autres, c'est le contraire. Moi, quand les symptômes arrivent, au nom de Jésus, je sais quoi faire. Mais alors, les finances, vous le regardez, il roule, il conduit que ses chaussures trouées. Donc ça veut dire une chose, c'est qu'il va falloir qu'il active sa foi au niveau des finances. Dans chaque domaine, nous avons des défis. Nous avons des choses qu'il faut enlever de notre passé. C'est-à-dire, je vous rappelle, ces montagnes, c'est un certain nombre de problèmes qui sont dus à notre passé avant d'avoir Jésus.
Et
les autres montagnes, c'est de construire notre destinée. Donc, la foi va être une école. Cette petite foi, cette grande foi, ça ne se passe pas par hasard. La foi va être un muscle. Un muscle que tu vas exercer régulièrement. Entraîne-toi là où tu as une mesure de foi. Comme je le dis souvent, si tu n'es pas capable de te mettre dans la foi pour un mal de tête, le jour où une sérieuse maladie incurable risque de te frapper, tu risques de te faire terrasser par la maladie. Donc il faut que tu apprennes. Exerce ta foi là où tu dois apprendre à l'exercer un peu partout. Étape après étape. N'essaye pas de croire pour des très grandes choses alors que tu es incapable de croire déjà à la base pour une petite chose. Apprends à fixer des objectifs. Où tu parles les choses dans ta vie. Et tu vas les voir se réaliser après année après année.
Pardon.
Et tu vas voir que dans 5, 10 ans, 15 ans, ta foi va être beaucoup, beaucoup plus forte dans beaucoup de domaines. Mais n'essaye pas de vouloir détruire une immense montagne alors que devant un grain de sable, tu te casses la figure. Donc apprends à accrocher ta foi là où tu peux accrocher ta foi. Il y a des gens, parfois, ils demandent un boulot. Et il demande des choses complètement inconsidérées.
Et
ils ne le reçoivent pas. Accroche ta foi au départ. Là où tu es capable de croire. Contre tes circonstances. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 3, elle nous parle de cette mesure de foi. Et je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est que nous avons tous une mesure de foi quelque part pour commencer. Mais cette mesure de foi, il va falloir qu'on la développe. Vous savez, rien de ce qui nous est donné par Dieu au départ né à maturité.
Kiba gikuze gishitse.
Ça, il faut que vous le compreniez dans votre vie spirituelle. Ce que Dieu te donne toujours, c'est une semence. Tu peux par exemple avoir des talents, être quelqu'un de talentueux, c'est une semence. Il va falloir que tu exerces ton talent, que tu exerces ton don, que tu l'amènes à maturité. Souvent, pour les gens qui sont dans le ministère, c'est ce qu'on leur explique. Les gens qui font l'expérience de l'onction du ministère.
Et
voilà, moi j'ai reçu ça du Seigneur. Je sais que je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis enseignant, etc. Eh bien, je vais vous dire une chose. Quand la personne reçoit le don, même le don de prophétie, même le don du parler en langue, toutes ces choses-là, doivent être développés à force de pratiquer selon les règles divines. Dieu t'a donné une semence. En toi, il y a une semence de foi. La Bible nous en parle dans Romains 12, verset 3. Il est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une opinion trop haute de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. En fait, Dieu nous parle ici qu'il a mis un dépôt de foi en nous au départ. Le fait d'avoir cru en Jésus et d'avoir reçu Jésus comme ton sauveur personnel,
Dieu
a mis un dépôt de foi en toi. Et il va falloir que tu développes ce dépôt, que tu développes cette mesure de foi, que tu exerces ta nature spirituelle devant tes circonstances, devant les difficultés que tu rencontres, devant ce qui te paraît impossible. Parce que Jésus l'a bien dit, tout est possible à celui qui croit. Si ça ne se produit pas dans notre vie, ça veut dire que nous manquons de foi. Il faut être bien clair là-dessus. La foi, c'est ce qui permet à la puissance de Dieu de passer dans nos situations. Maintenant, vous savez, si vous voulez faire passer une grande puissance dans un tout petit fil électrique, le petit fil électrique ne pourra pas contenir la capacité. Il va brûler. Donc, c'est clair qu'avec un petit fil, il y a juste un peu de puissance qui passe. Avec des gros fils, il y a beaucoup de puissance qui passe. Donc, à nous, entre guillemets, d'élargir notre fil. Notre tuyau, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais la Bible est claire, selon notre capacité. Dieu nous a donné une mesure de foi. Et cette mesure de foi, il faut que tu la développes. Il faut que tu apprennes à la développer. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 17, quelque chose qui est très important. C'est un bout de verset à la fin. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, Romains 1.17, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, regardez bien ici, le juste vivra par la foi.
Ngo kuko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa n'ukwizera kukagwiza ukwizera nkuko byanditswe ngo mugororotsi azobeshwaho n'ukwizera.
C'est sûr que ce verset nous parle de ce qu'on appelle de la justification par la foi. On verra ce que ça veut dire. Le jour où tu as reçu Jésus, Dieu ne te voit plus comme pécheur, mais il t'a parfaitement justifié. Nous en parlerons parce que ce manque de compréhension aussi de notre justice, c'est-à-dire notre position devant Dieu, est très souvent un obstacle à notre foi. Parce qu'on verra que la condamnation, c'est le jeu du diable. Mais ici, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que la vie de Dieu coule au travers de la foi. La vie de Dieu coule au travers de la foi.
Ubuzima bw'Imana butemba biciye mu kwizera.
Ça veut dire que tu dois apprendre à vivre.
Ni ukuvuga ngo usabwa kwiga
kubaho. Dans une marche par la foi qui doit être une marche montante.
Mu rugendo rwo kwizera rugenda rurakura
rutera imbere. Est-ce que je sais pas, il y a certaines personnes vous êtes peut-être sauvés depuis 10 ans, d'autres 5 ans, d'autres 15 ans, d'autres 20 ans ou X années.
Hari abantu maze imyaka 5, 10 mukijijwe, imyaka itandukanye
mukijijwe. Est-ce que tu peux dire que tu as progressé dans la foi?
Bega wirabye wumva warakuze mu kwizera.
C'est-à-dire que est-ce que tu es capable de résoudre des problèmes humains avec des solutions divines?
Bega wumva urahantu ushobora gukemura ingorane z'abantu ukoresheje inyishu z'Imana.
D'amener des changements dans ta vie parce que tu es gérant de ta vie, je te le rappelle.
Ukazana uguhinduka mu buzima bwa kuko wibuke ko ari ubwirizwa.
C'est toi qui gères ta vie, tu n'es plus le propriétaire de ta vie parce que ta vie appartient au Seigneur.
Ni wewe ubazwa ubuzima bwawe, ntibukira ubwi wawe kuko wabuhaye
Uhoraho. Tu es le manager, le gérant, l'intendant de ta vie.
Ariko ni wewe ubazwa ni wewe ubujera.
Donc tout ce qui se passe dans ta vie,
urumva ikiba cyose mu buzima bwawe.
Tu en as une responsabilité.
Ubifisemo uruhara.
Et particulièrement dans l'action divine dans ta vie. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui Dieu est en train d'agir beaucoup plus dans ta vie? Qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. C'est une question que tu dois te poser. Je
vous
rappelle qu'il est important de temps en temps de s'asseoir et de faire un bilan. Qu'est-ce qui aujourd'hui pour toi est un obstacle? Un obstacle à ton épanouissement dans le Seigneur. Avoir le royaume de Dieu se manifester. Qu'est-ce qui est un obstacle pour voir ta destinée se réaliser? Qu'est-ce qui t'empêche? Quelle est la montagne qui est devant toi et qui t'empêche d'aller plus loin? Qui te bloque? Que tu n'as pas vaincu par la foi? Ça, c'est quelque chose que tu dois te poser comme question. Si tu as encore ces montagnes devant toi,
il
faut que tu apprennes à les détruire. Nous avons étudié Marc 11, c'est pas pour rien. Marc 11. Nous l'avons étudié ensemble. Où Jésus dit que nous devons dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, après toutes ces années, est encore un obstacle devant toi? Tu essaies toujours de te tirer vers l'arrière, ou qui aussi, au contraire, t'empêche de réaliser la vision que tu as? Quelle est la montagne qui encore te fait obstacle? Regarde-la. Et dis non, je ne veux plus que cette montagne existe. Je dois la dominer, la détruire. Si tu apprends à le faire, tu vas marcher après avoir détruit cette montagne. Et il y aura une autre peut-être plus grande. Mais entre-temps, tu auras déjà eu de l'apprentissage sur les autres. Ça, tu dois le faire. Le monde juste vivra par la foi. Manifestera la puissance de Dieu par la foi. Apprendra à vivre. Donc, à laisser la vie divine se manifester par la foi. Donc, il faut que tu apprennes à être un canal de cette puissance divine pour voir les choses se réaliser. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qui est venu à la réalisation dans ta vie? Que tu as vu avec tes propres yeux que Dieu t'a dit. Que ce soit dans sa parole. Que ce soit personnellement dans ta vie. Tu dois te poser ces questions. Et régulièrement te les poser. Peut-être pas tous les jours, mais sur des périodes de temps en tout cas. Il y a des saisons où nous devons vraiment proclamer notre foi. Il y a des saisons où rien ne semble bouger. Mais il y a des saisons où tout bouge. Et d'un seul coup, montagne après montagne, ça s'enlève. Et c'est sûr qu'on aime bien ces saisons-là. Mais avant cela, il y a une saison où on a dû croire envers et contre tout. Comme Abraham, nous l'avons étudié aussi, qui a cru contre toutes circonstances. Il a cru à la parole de Dieu. Et il a vu s'accomplir. Espérant contre toute espérance, nous dit la parole de Dieu. Abraham crut.
Abraham a lisé.
Et il a vu. Mais il a d'abord cru.
Et
il y a des moments dans l'école de la foi où les montagnes qui sont devant nous ont du mal à dégager. Mais quand vous êtes persuadé, quand vous êtes convaincu, quand vous refusez de faire un pas en arrière, la montagne qui est devant vous, elle sera détruite. Et vous pourrez passer tranquillement devant. Mais ça, ça va vous demander d'apprendre. La Bible nous parle dans Jacques chapitre 1 de quelque chose à propos de l'épreuve de la foi. Dieu est un Dieu d'examen, sachez-le. Il nous fait passer des examens. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Au verset 2 de Jacques chapitre 1, il est dit la chose suivante. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Ngo mwiyumvire ko ari byo kunezererwa gose igice cy'ambere murongo wa kabiri bene data nimwagwa mu bibagerageza bitari bimwe mumenye yuko ibigeza ukwizera kwanyu bitera kwihangana.
Alors regardez bien maintenant le verset 4.
Murongo wa kane.
C'est le fruit de la patience.
Iki ni chamwa cyo kwihangana.
Verset 4, il est dit il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien.
Ariko kwihangana gukwiye guhingura igikorwa cyako ngo mubone gutungana gose muhinguwe mudahajije na kimwe.
On va expliquer ces versets, c'est très facile.
Reka dusobanure imirongo biroroshye cyane.
D'abord nous allons clarifier le mot épreuve et le mot tentation.
Ubwa mbere reka dusobanure neza ijambo kugeragezwa ari kibazo ucishijwemo n'ijambo kugeragezwa ari kugira ngo ugwe.
Et il y a deux mots en tout cas en français, Steve est habitué donc je pense qu'il sait ce qu'il faut dire.
Mu kirundi kiragoye byose babyita kugeragezwa.
Bon. Alors en français directement il y a tentation et épreuve.
Urumva mu gifaransa aho birumvikana neza hariho umva tentation na épreuve.
La tentation a une source différente de l'épreuve.
Ni kuvuga ngo kimwe bifise amasoko atandukanye.
La tentation, sa source, c'est du diable.
Tentation, kugeragezwa, bita tentation, isoko ni Satan.
L'objectif du diable, c'est quoi?
Intumbero ya Satan abari.
C'est chercher un terrain sur un être humain.
Nukurondera hantu ku buzima bw'umwana w'umuntu.
Utiliser ses pensées, son imagination.
Agakoresha ivyumviro vyiwe,
ses cinq sens.
Ingene yibaza umubiri wiwe.
Et amener cette personne.
Hama agaca tumuwo.
Avec son âme et son corps.
Akoresheje umushaha n'umubiri wiwe.
À faire des choses contre Dieu.
Gukora ibintu bihushanye n'iby'Imana.
L'objectif de la tentation, c'est de nous faire pécher.
Intumbero rero y'iryo geragezwa n'ukugwa mu cyaha.
L'objectif, c'est toujours de nous avilir, c'est-à-dire de nous abaisser.
Intumbero y'uko kugeragezwa n'ugucishwa bugufi n'ugusubizwa hasi.
En fait, l'idée du diable au travers du péché,
intumbero ya Satani bice mu cyaha,
c'est d'amener l'homme à devenir comme un animal.
N'ugushika gushikana umuntu ahacika nk'igikoko.
Parce que Dieu a créé l'homme à son image, avec sa gloire. Et le diable veut amener un maximum d'êtres humains dans le péché. Pourquoi? Pour les amener à être comme des animaux, à se comporter comme des animaux. Ça, c'est le plaisir maléfique du diable. Et en fait, je ne sais pas si le diable a de la joie, mais c'est le plaisir maléfique. Et en fait, on voit que l'épreuve
va avoir
une autre source. L'épreuve a pour source Dieu. C'est-à-dire que Dieu voit qu'on est là devant certains obstacles. Et quand il voit un bon cœur, il s'arrange pour que ce bon cœur puisse connaître sa parole. Donc, pourquoi? Parce que Dieu veut nous exercer à la foi. Dieu veut nous exercer à ce que nous puissions grandir dans la foi. Donc, il va nous faire passer des examens de foi. Et plus tu passes ces examens, plus Dieu va pouvoir agir avec sa puissance dans ta vie. Parce que Dieu va pouvoir te confier de plus grandes choses. Parce que vous savez, Dieu ne veut pas confier des grandes choses à faire à certaines personnes qui ne veulent pas passer par l'école de la foi. Pourquoi ? Parce que ces personnes vont échouer. Elles vont échouer pourquoi ? Parce qu'elles ne vont pas s'exercer dans la foi. Elles ne verront pas, elles vont dire Dieu m'a dit que. Et c'est vrai. Mais elles vont être enterrées avec leur Dieu m'a dit que. Et c'est triste. Je vous rappelle que c'est dans les cimetières qu'il y a les plus grandes richesses qui sont enterrées. Les plus grands rêves et les plus grandes visions. Les plus grandes choses inachevées. Par des êtres humains. Et ça, c'est le plus grand drame de l'humanité. C'est pourquoi Dieu veut nous donner à chacun d'entre nous. Sachez une chose, chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à réaliser ici. Et Dieu, vous savez, n'est pas le Dieu des petites choses. Ça, je vous l'ai dit, parce que ça, il n'y a rien de plus qui m'agace. Des gens qui vous racontent des soi-disant témoignages et vous cherchez un microscope électronique pour voir où est-ce que Dieu a vraiment agi. Comme si Dieu agissait par hasard. Dieu n'agit pas par hasard. Dieu agit en utilisant ta foi. Et quand quelqu'un n'est pas capable d'augmenter dans sa foi, il va complètement limiter la puissance de Dieu. Dieu ne pourra pas l'amener dans les plus grandes choses. Parce que Dieu a besoin d'un cœur. Pourquoi ? Il a besoin de quelqu'un qui soit entre guillemets assez fou pour les hommes et assez intelligent pour Dieu pour voir les choses de Dieu et donc l'état final prophétique dans lequel Dieu le veut et arrêter de voir ses propres circonstances autour de lui. Et pour ça, il faut des gens qui marchent dans la foi. Donc ta foi va être éprouvée. Elle va être purifiée. On verra qu'il y a un résultat dans cela. Mais dans ta foi, il va y avoir des temps d'épreuve. Comme Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Nous connaissons tous cette histoire dans la Genèse. Alors qu'Abraham et Sarah ont finalement eu le fils promis, des années plus tard, alors que Isaac était adolescent, qu'Abraham était comblé, il était comblé parce qu'il avait eu un fils au travers de ses entrailles après avoir gaffé plusieurs fois. Mais finalement Dieu lui avait donné plusieurs chances et il avait saisi ses chances. La dernière chance était la bonne et il voit Isaac naître au travers de sa femme alors qu'ils étaient complètement âgés, incapables d'avoir des enfants et qu'ils allaient passer à côté de la plus grande promesse que Dieu n'a jamais faite à un homme. Car je vous le rappelle, Abraham a été l'homme sur la terre qui a reçu la plus grande promesse qu'aucun homme n'ait pu recevoir de l'histoire de l'humanité. Donc, ce que Dieu lui avait dit au départ quand il est sorti de sa patrie, que son nom serait grand, que des nations naîtraient de son sein, qu'il serait prospère à tous égards, finalement, qu'il aurait une influence incroyable. Mais Abraham l'avait vu de ses propres yeux. Mais là, Dieu va faire encore un test. Il va lui dire, donne-moi ton fils. Et j'aime bien parce que Dieu va lui dire, donne-moi ton fils, ton unique. Sinon, Abraham aurait couru en disant, où est Ismaël ? Non, non, c'était bien ton unique, là, Isaac. Et Abraham va obéir. Parce que c'était quelqu'un qui savait marcher dans la foi. Et Dieu lui a dit, maintenant, je vois vraiment que tu es prêt. Et Dieu va lui rappeler des promesses extraordinaires. Et Dieu nous met à l'épreuve dans notre foi. Parce que c'est triste à dire, mais l'être humain, pour savoir de quoi il est fait, et ben il est comme un fruit.
Si
vous voulez goûter le jus d'un fruit, il faut le mettre sous pression.
Et un être humain,
c'est la même chose. Pour savoir vraiment si tu aimes Dieu, que tu es capable d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et fais attention quand tu dis, Seigneur, j'irai partout, tu me diras, je ferai tout ce que tu me demanderas. Fais attention parce que Dieu va rapidement te mettre en première année de maternelle.
Et dire,
c'est pas toi qui avais dit tu iras faire. Allez, voilà, je te demande ça pour l'instant.
Oui,
tu vois, Seigneur, là c'est un peu difficile en ce moment. Oui, parce que Dieu va mettre à l'épreuve ta foi. Seigneur, à chaque fois que tu vas me dire de donner quelque chose, je vais le faire, Seigneur. Et quand tu as la petite voix qui te dit, il faut que tu donnes ça à quelqu'un ou à l'église.
Tu vois,
Seigneur, ces derniers temps, ça n'a pas été facile quand même.
Je
ferai ça dans quelques semaines. Et puis quelques semaines se passent. Tu vois, Seigneur, oui, c'est vrai, ces derniers temps, tu m'avais. Mais je ne suis pas sûr que ce soit toi qui m'as parlé finalement.
Vous
voyez, et puis on recule. Soyez prudent. Moi, maintenant, je suis devenu très prudent sur ce que je dis. À Dieu. Ah, c'est sûr, au début de la conversion, on dit Alléluia, Dieu, je veux devenir un apôtre. Je veux prêcher devant un tel, je veux faire ceci, je veux.
Et
Dieu commence à te mettre là. Et regarde de quel jus tu vas produire. Et si le jus n'est pas bon, on va remettre au début de la première année maternelle. Non, mais Seigneur, moi je veux être à l'université, faire comme les grands. Non, mais Dieu va déjà t'éprouver à la base.
Il
va éprouver ta fidélité à sa parole. La Bible nous dit que l'épreuve de notre foi, l'examen de notre foi, produit la patience. Ah, la patience. Mais il faut l'avoir, il ne faut pas être patient dans la foi. Pardon, faut pas être, je reprends ma phrase. Il faut pas être patient dans la chair, excusez-moi. Il y a des gens, ils attendent. Je dirais pas qui, mais il y a un peuple qui attend tout le temps. Il y a un temps pour attendre, mais dans la foi, c'est une attente active, la foi. C'est-à-dire, il y a des gens, ils disent, bon ben, comme Dieu a parlé, j'attends. Ça,
ce
n'est pas la patience.
Ça,
c'est le manque de foi. Et tu penses que Dieu va tout faire alors que toi, tu ne fais rien et que tu es assis. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment la foi fonctionne et les examens de foi fonctionnent. Ici, en fait, la patience, c'est une attente active dans l'obéissance.
C'est-à-dire,
tu fais ce que le Seigneur t'a demandé là où tu es, au niveau où tu es. Tu le fais fidèlement.
Tu as
envie que beaucoup de choses se produisent. Mais pour l'instant, rien de spécial se produit. Mais ce que Dieu te demande simplement, c'est d'être dans une attente active où tu lui obéis simplement. En attendant la suite.
Et
il y a beaucoup de gens qui s'activent d'une mauvaise façon. Parce qu'il y a des gens qui sont passifs. Et ils disent, j'ai de la patience, mais en fait, ils n'exercent pas leur foi. Et il y a des gens aussi qui manquent de patience, qui s'impatientent. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils veulent réaliser de leur manière ce que Dieu leur a dit de
faire.
Donc d'un seul coup, ils commencent à se lever en disant, comme Dieu m'a dit ça, je vais le faire, mais sous-entendu à ma sauce. Et Dieu va bénir ma sauce. Et là, tu loupes l'examen. Tu louperas l'examen de deux manières. En étant passif et en étant incrédule, donc. En disant, Dieu va faire, mais en fait, il n'y a pas de foi chez toi. Et Dieu te demande pourtant d'obéir et de continuer d'obéir. Ou au contraire, en voulant absolument faire les choses comme toi tu veux les faire, et en disant, c'est Dieu qui m'a dit de faire
ça.
Et là, il y a beaucoup de gens qui s'impatientent.
Et
ça ne produit pas la patience selon Dieu. La patience selon Dieu, c'est de continuer à subir certaines pressions en discernant que ce n'est pas le temps de Dieu. Mais tu sais que ton temps va arriver.
Mais
entre-temps, pendant cet examen-là, tu te tiens bien droit et tu ne regardes ni à droite ni à gauche. Tu fais seulement ce que Dieu t'a demandé de faire. Pas moins, mais pas plus non plus. Parce que tu sais qu'il y a un moment où Dieu va te faire passer en deuxième année de maternelle. Et pour l'instant, tu dois être patient selon Dieu. La Bible nous montre le fruit de cette patience divine selon Dieu. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en toi. La foi va te former. L'école de la foi va t'amener à ne pas considérer tes circonstances et à dire, Seigneur, ça fait mal. Je suis sous pression, mais j'obéis à ta parole. Je reste fidèle à ce que tu m'as dit. Mais je sais aussi, Seigneur, que je vais passer en année supérieure. C'est ça, l'œuvre de la patience. Ça va travailler en toi. Et ça, les gens n'aiment pas ça. Ils veulent tout et tout de suite. Et ils font comme Moïse. Je suis un libérateur. Ça brûle en moi. Il y a cet Égyptien qui ose frapper un Hébreu. Attends-toi, je vais te régler ton compte. Qu'est-ce que Moïse a fait ? Moïse a manqué de patience. Moïse a loupé son examen ce jour-là. Et il s'est retrouvé 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce qu'il a redoublé 40 fois. Vous comprenez ce que je veux dire au travers de ça ? Oui, parce que pendant 40 ans, Moïse n'était pas prêt. Quand il était mort, parce que Moïse était quelqu'un qui voulait absolument réaliser sa vision, la vision divine. Quand ça a été mort en lui, à sa façon de faire, là il a été prêt. Et d'un seul coup, il a une immense promotion. Dieu fonctionne avec des promotions. Mais ce n'est pas à toi de te promouvoir. Ce n'est pas à toi de dire au directeur de l'école, moi je passe cette année. J'ai décidé. Et d'ailleurs, je vais sauter trois classes. Hop, d'un seul coup. Qui c'est qui va décider, c'est le directeur?
Ce n'est
pas l'élève ou l'étudiant qui va dire je passe de la première à la quatrième année directe. Non, on va le faire passer selon la réussite de ses examens. Ça me paraît tellement évident dans le naturel.
Mais
ça paraît tellement compliqué pour les gens spirituels. Non, Dieu a besoin de travailler en toi. Pour que cette patience accomplisse son œuvre. Là, tu auras des opportunités pour travailler ton caractère.
Voir
qu'est-ce que tu es capable de supporter. Parce que dans la foi, tu vas être obligé de supporter beaucoup de choses. Quand tu marches dans la foi, nous pourrions lire Hébreux
11.
Combien des gens ont renoncé à beaucoup de choses pour marcher dans la foi, pour marcher avec Dieu. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Même des choses qui étaient légitimes, certains. La Bible nous dit même, Moïse a renoncé à la jouissance du péché, et puis il avait tout, Moïse.
Bible tubwira ngo Mose yaranse kunezererwa icyaha yarafise byose byari kumwe nawe byari
bere. C'est pas ce qu'il y avait dans son cœur.
Ariko yarazi ko icyo atari cyo.
Savait que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour lui.
Yarazi ko icyo atari cy'Imana imugombera.
Il a fait ses erreurs.
Maze arakora amakosa
yiwe. Mais il a marché dans la foi, c'est un héros de la foi.
Ariko agendera mu kwizera aciko muhize ukwizera.
Donc il va falloir que cette patience accomplisse son œuvre en toi.
Urumva birasaba kuko kwihangana gushitsa igikorwa cyako muri
wowe. Parce que la Bible nous dit après que vous soyez parfait et accomplir sans faillir en rien.
Biravuga ngo kugira ngo muhingugwe mudahajije na kimwe.
Le mot parfait.
Iri jambo ngo guhinga.
Quand vous le lisez dans le Nouveau Testament.
Yuri kura risoma mu isezerano rishasha.
Ça veut dire mature, ça veut dire avoir de la maturité.
Donc vous ngo gukura.
Donc en fait, l'idée de Dieu, c'est quoi? C'est qu'au travers de la foi, et rappelez-vous que la foi va aller à l'encontre de vos circonstances. La foi parle des choses prophétiquement qui sont exactement opposées aux circonstances que vous avez aujourd'hui. Si
tu
es dans des superbes circonstances, tu n'as pas besoin de foi. Si
tu es
en très bonne santé, tu ne vas pas dire « Ah, aujourd'hui, j'ai la foi pour être guéri. »
Non,
parce que tu es en bonne santé. Les bonnes circonstances ou comme Dieu, la façon dont Dieu t'a béni, là où tu es, tu n'as pas besoin de foi pour être là. Peut-être que tu as exercé ta foi pour arriver là. Mais si ta foi a vaincu tous ces obstacles, aujourd'hui, ces obstacles ont été changés en bonnes circonstances divines. Tu as attiré la faveur de Dieu. Mais maintenant,
tu as
la prochaine étape pour aller plus haut. Mais maintenant, peut-être que tu es né dans une famille où tu as beaucoup de biens financiers. Tu
ne
vas pas dire, j'ai besoin d'exercer la foi pour être largement pourvu, parce que tu l'es déjà. Comme on le dit en anglais, tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et en fait, donc là, tu n'as pas besoin d'exercer ta foi. Parce que
tu
as eu de bonnes circonstances de par ta naissance.
Vous
voyez, donc, si tu es déjà dans certaines circonstances qui sont bonnes, tu n'as pas besoin de foi dans ça. Par contre,
tu
as peut-être besoin de foi dans d'autres domaines. Donc, la Bible ici, que vous, afin que vous soyez parfait, c'est-à-dire que vous acquériez de la maturité et accompli. Et ce mot accomplir a différents sens. D'abord, être accompli, ça veut dire être épanoui quelque part.
C'est-à-dire
que ton caractère a été travaillé. Parce que rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'il y a des choses, même Dieu peut intervenir dans nos vies, que notre caractère a forcément été travaillé. Utilisez les mauvaises circonstances pour travailler votre caractère. Rappelez-vous des gens comme Joseph. Des gens comme le prophète
Daniel.
Ce sont des gens qui étaient dans des circonstances épouvantables. Joseph l'a été entre autres par sa stupidité, son orgueil. Il a été vendu par ses frères qui le haïssaient parce qu'il a largement contribué à la haine de ses frères contre lui. Mais il s'est retrouvé dans des circonstances pourries. Mais c'est un homme qui avait une vision. Et qui a été transformé dans son caractère. Le Joseph, quand il avait 17 ans, petit gamin orgueilleux, qui a les promesses de Dieu pour lui, qui est en train de se vanter devant toute sa famille, ce n'est pas le même qu'on retrouve 13 ans plus tard, alors qu'il est devenu le deuxième d'Égypte par un miracle de Dieu. Ces 13 années ont été des années de foi et de formation et d'accomplissement. De transformation totale de Joseph. Daniel, lui, s'est retrouvé dans des circonstances ultra diaboliques. Daniel s'est retrouvé dans des épreuves de foi gigantesques. Daniel n'était pas un réfugié, c'était un déporté. Un réfugié, il fuit un endroit pour trouver une meilleure vie ailleurs, ou en tout cas il essaye, ou parce qu'il est menacé. Un déporté, c'est un ennemi qui vient dans votre pays, qui prend votre pays, qui vous sort de ce pays, qui vous amène chez lui, dans son fief, dans son pays, et qui vous oblige à travailler pour lui. En général, on n'a jamais envie de travailler pour un ennemi qui a envahi notre propre nation. Donc c'est une circonstance qui est terrible. Et Daniel était environné de gens qui faisaient de la sorcellerie partout. Mais c'est un homme qui, par sa foi, a su vaincre des montagnes gigantesques, qui était sous des pressions incroyables, mais qui avait un caractère d'excellence qu'il a travaillé au travers de cela. C'était un homme accompli, parfait, c'est-à-dire mature, mais accompli aussi. Et c'est ça que notre foi fait, les examens de notre foi. Quand on ne comprend pas que notre foi fonctionne comme une école, eh bien nous allons nous retrouver devant des difficultés. Après ce moment de sevrage spirituel, entre guillemets, du début de votre... Pour rappeler, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant encore. Aidez-le, mesdames, aidez-le, s'il vous plaît. Sevrage, Mukirundi.
Mouchouka.
Tu sais quand même ce que c'est que le sevrage, Steve.
Ah ouais,
tu sais. T'as vu ça et t'as appris ça et t'as pratiqué ça, non? C'est bien. Et en fait, il y a ce moment justement de sevrage spirituel, c'est-à-dire là où on prie pour vous au début de votre conversion. Et c'est la foi de celui qui prie pour vous dont vous bénéficiez. Après, vous devez commencer à marcher par votre propre foi. Comme le petit bébé qui au bout d'un moment s'est fait nourrir, il est sevré. Il commence à manger un peu tout seul. Il va apprendre à se nourrir tout seul. Il va marcher et courir avec ses quatre pattes là. Mais un jour, il va se tenir comme les grands bipèdes dans ce monde de géants pour lui. Et un jour, il va apprendre à marcher. Mais il va se casser la figure plusieurs fois avant de réussir à marcher. On
ne
s'en souvient plus, mais tous, on est tombés plusieurs fois avant de nous tenir correctement sur nos deux jambes. Et dans la foi, c'est la même chose. La foi est une école. Ne l'oubliez jamais. Passez par ces étapes. Apprenez à exercer votre foi. Comme vous exercez des muscles. Comme vous passez des examens à l'école. En vue d'arriver à quelque chose. À un accomplissement. À un achèvement. Et ça va travailler votre patience, votre caractère. C'est pas toujours facile. C'est une bonne école. Parce que quand nous commençons à passer ces étapes, nous commençons à gratter la surface de quelque chose de surnaturel, quelque chose qui vous emmènera quelque part dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais il y a un temps où il faut démarrer dans ces choses. Si vous restez toujours à tourner en rond, à dire ah ben oui, mais j'ai prié, Dieu n'a pas. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Et la Bible dit de prier les uns pour les autres. Mais ça ne te déresponsabilise pas. Au contraire, quand quelqu'un prie avec toi et pour toi, tu devrais prendre cela de la manière la plus haute, la plus noble. Parce que c'est quelqu'un qui veut s'associer avec toi pour voir un résultat divin dans les problèmes humains. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que Seigneur, la foi est une école pour nous.
Et
merci pour cette école de la foi. Tu nous apprends, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que cette école de la foi produise en nous. Que ces examens de foi, nous puissions les passer victorieusement. Que nous puissions, Seigneur, voir notre caractère et te travailler dans la patience. Savoir attendre le bon moment et ne pas rester passif, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons aussi passer ces examens avec succès. Parce que nous voulons grandir, maturer en toi. Oh, nous voulons, Seigneur, être épanouis.
Et
rien ne pourra nous détruire.
Aucun
obstacle ne pourra subsister contre nous.
Parce
que nous aurons appris, Seigneur,
à
grandir dans la foi. Merci, mon Père. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.